On retrouve ici Moïse, après son appel depuis le buisson ardent. Il a finalement accepté d'être le porte-parole de Dieu auprès de Pharaon. Il s'est déjà présenté une première fois devant le monarque pour lui dire de la part de Dieu, vous connaissez ça, « Laisse aller mon peuple ». Mais Pharaon, au lieu de répondre favorablement à sa pétition, il a augmenté encore plus la charge de travail du peuple hébreu. Autrefois, pour faire des briques, il leur fournissait la paille. Maintenant, ils doivent aller eux-mêmes chercher la paille et faire le même nombre de briques. Au lieu de libérer le peuple, au fond, Moïse n'a fait qu'augmenter sa détresse. Et vous pouvez imaginer dans quelle pensée il est aujourd'hui. Et regardez à partir du verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel. Je ne sais pas où c'est, mais certainement pour nous, c'est derrière, dans notre chambre, porte fermée. Il est retourné voir l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ?» Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai en possession, moi, l'Éternel. » J'aime ce texte parce qu'on voit Moïse qui arrive là. Il a dit, ben voilà, tu m'as envoyé. Moi, je t'avais dit, qui suis-je pour pouvoir parler à ce peuple? Je me suis présenté et c'était la catastrophe exactement comme je l'avais prédit. Et puis, il dit, mais ce n'est pas toi qui fais le travail. Je suis l'Éternel. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et je suis celui qui va délivrer ton peuple. Oh, combien peut-être aujourd'hui vous êtes arrivé ce matin chargé dans votre âme en disant, mais j'essaye d'accomplir l'œuvre de Dieu et rien ne marche. Et Dieu peut-être vous dit ce matin, je vais le faire, je vais me glorifier, je vais montrer ma puissance. Le peuple, au fond, il ne connaît pas bien son Dieu. Ils savent qu'il est le Créateur, ils savent qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob qui est venu lui-même en Égypte avec sa famille. Mais il semble que Dieu a oublié son peuple en Israël, en Égypte, et ça fait 400 ans. Il semble que ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est totalement impuissant malgré leurs nombreux cris qui sont parvenus à ses oreilles à le délivrer de l'esclavage. Et Pharaon et l'Égypte ignorent tout de l'Éternel. Regardez au chapitre 5, verset 2, au moment où Moïse s'est présenté la première fois devant Pharaon. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel ?» Chapitre 5, verset 2. « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ?»« Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » »« Je ne connais pas ton Dieu. Dégage !» Mais le Seigneur répond, chapitre 6, verset 1, « Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu verras maintenant une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » J'aime cette expression, une main puissante qui est rappelée deux fois ici. Et puis au verset 3, il dit, « Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Je me suis révélé à eux comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Abraham, j'ai donné un fils quand il avait 100 ans. Sa femme en avait 90. On n'a jamais vu chose pareille. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel ? Mais à toi, Moïse, je me suis révélé comme l'Éternel, Yahweh, celui qui est, celui qui ne change pas. Alors je suis le Dieu Tout-Puissant et je ne change pas. Je vais maintenant montrer ma puissance et faire éclater ma gloire. » J'aimerais que ce matin on regarde cela. Quand Dieu montre sa puissance, il montre sa supériorité à tous les autres. Et puis il le fait par des moyens méprisables. Et puis on tirera trois leçons de cela. Oui, Dieu montre sa puissance ici. Dieu montre sa supériorité. Quand Dieu montre sa puissance, il montre que rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. En fait, Dieu annonce à l'avance à Moïse ce qui va se passer. Il l'a annoncé au moment même où il était devant le buisson ardent. Il lui dit, c'est l'heure. Le peuple va partir. Il va quitter l'Égypte et il va partir en terre promise, une terre que j'ai préparée pour eux. Il dit, le peuple va partir. Mais d'abord, je vais montrer ma gloire. Je vais vous montrer ma gloire, à vous, mon peuple, mais je vais montrer ma gloire aussi au peuple d'Égypte. Et puis même, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui vous paieront, en quelque sorte, toutes les années de travail qu'ils vous doivent. Oui, Dieu annonce à l'avance, ça c'est Ésaïe qui dit ça, Ésaïe 46, verset 9. Magnifique verset, je voudrais vous le lire, 9 et 10. Il dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Quand Dieu dit une chose, il a la puissance de l'accomplir. Rien ne peut se jeter en travers de cette puissance. Et puis Dieu fait tout ce qu'il veut. Dans le psaume 115, verset 3, il est dit, et c'est certainement un peu les paroles que pouvaient dire les Égyptiens. « Mais où est votre Dieu ? Où est-il votre Dieu ? Il se cache bien. » Psaume 115, verset 3, dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est puissant, notre Dieu est puissant et il accomplit tout ce qu'il veut. Il veut faire éclater sa gloire. Il veut montrer sa puissance à son peuple. Alors, il va le faire. Et il se sert de Pharaon. Il se sert au fond de celui qui a le cœur le plus endurci, celui qui est le moins bien disposé à suivre l'Éternel, à accomplir sa volonté. Et Dieu dit, c'est par lui que je vais faire éclater ma puissance. Je trouve ça merveilleux. Dieu utilise même les impies. Même les méchants, il va les utiliser pour faire éclater sa puissance, sa gloire. Il y a des choses qui nous arrivent de la part des méchants. On souffre de la part des méchants. Et pourtant, Dieu veut faire éclater sa gloire dans notre vie, même au travers des méchants. C'est ce qui est dit, c'est ce que Paul dit en Romains chapitre 9. Tout le chapitre est exceptionnel sur ce sujet, mais les versets qui concernent Pharaon, il est dit au verset 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » N'est-ce pas merveilleux? Même l'homme le plus méchant, le plus hostile, va faire éclater la gloire de Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut. Et puis Dieu montre sa supériorité sur tout autre. Les plaies vont s'abattre et confondre les divinités principales d'Égypte. Toutes les plaies visaient spécifiquement une divinité égyptienne. L'Éternel montrait à son peuple qu'il était meilleur, qu'il était infiniment supérieur à toutes ces divinités. Il montrait également aux Égyptiens que ces faux dieux qu'ils adoraient étaient pour eux une malédiction. L'Égypte est une nation puissante. L'Égypte est une nation éduquée, une nation qui est sage, soi-disant. C'est une nation qui est riche par son agriculture. Elle est riche de ses minerais. Elle est dominatrice sur tout un peuple esclave qu'elle emploie. En Égypte, tout est religieux, tout est relié avec une divinité. Il y a des dieux pour tout. Politiquement, les pharaons qui se succèdent à la tête de l'Égypte dominent le monde. Ils sont eux-mêmes vénérés comme des dieux. C'est la nation la plus forte. C'est la nation la plus puissante à cette époque et Dieu va détruire cette nation pour montrer sa force, sa puissance. Il va la détruire économiquement, il va la détruire politiquement et puis il va la ruiner religieusement. Lors de la première plaie, c'est l'eau est changée en sang, c'est Hapi, dieu du Nil qui est frappé. Chaque année, le Nil débordait de son lit pour fertiliser les rives qui étaient asséchées par le climat aride de l'Égypte. Hapi est donc par extension le dieu de la prospérité. Il est le dieu de la fécondité. C'est un peu euro, comme on l'appellerait aujourd'hui, nous dans notre pays. Ah. Quel Dieu prospère, il nous fait prospérer. Dieu va écraser ce Dieu. Il dit qu'il va changer l'eau en sang. Et le Nil se trouve maintenant produire la mort, conduire à la mort. Tous les poissons du Nil sont morts. La deuxième plaie discrédita Hect. Ça, c'est la déesse au corps de femme et à la tête de grenouille. Personne ne voudrait voir ça, mais... Les Égyptiens considéraient la grenouille comme un symbole de fécondité. Mais maintenant que toutes ces grenouilles ont envahi les maisons, qu'on les retrouve dans les lits, dans les pétrins, vous ouvrez votre pain et puis... Elles n'apportent plus que la frustration, que la consternation, que le désagrément. Voilà ce que produit Hect. La troisième plaie fut celle des prêtres magiciens qui se sont trouvés incapables de changer la poussière en moustiques et en poux. Vous imaginez, ils étaient capables jusqu'à présent d'aggraver leur situation, mais ils n'étaient pas capables de contrer la puissance de Dieu. Et là, ils sont obligés de reconnaître, c'est le doigt de Dieu. Pharaon, c'est le doigt de Dieu, nous on ne peut rien contre ça. Elle discrédite le dieu Thoth, à qui on attribuait l'invention des arts magiques ou occultes. Les magiciens étaient maintenant couverts de poux, pleins de boutons de moustiques se grattaient, etc. Ils étaient impurs pour leur service. Les Égyptiens, ils aimaient l'apparence, ils aimaient le soin. Aujourd'hui encore, pour nous vendre du savon, on nous montre les Égyptiens en train de se laver dans des bains, etc. Alors, Dieu a envoyé une autre plaie, les temps. où les mouches venimeuses, elles envahissaient les maisons des Égyptiens. Mais cette fois-ci, les Israélites qui étaient au pays de Gozan avec tout leur bétail, eh bien, ils en furent affectés. Et ils n'en furent pas affectés. Ni Thoth, le maître des arts magiques, ni Ptah, le créateur de l'univers, ne purent s'opposer à cette plaie. Et la plaie suivante, ça, c'était la mortalité infligée au bétail, qui humilia les divinités telles que la déesse vache Hathor. Hathor, c'était une des déesses les plus adorées. Elle avait des temples partout. Apis, le taureau sacré du dieu Ptah, aussi s'est représenté en vache. Et là encore, Dieu distinguait avec son peuple en Gozan, dont les troupeaux prospéraient et tout le bétail égyptien était frappé. La sixième plaie, c'était les ulcères qui déshonoraient les dieux et les déesses Thoth, Isis et Ptah, censés posséder le pouvoir de guérir. Rien n'y faisait. La septième plaie fut la violente pluie de grêle qui discrédita les dieux à qui on attribuait la maîtrise des éléments naturels, tels que Respou, qu'on croyait capable de maîtriser la foudre, et Thoth, dont on disait qu'il avait le pouvoir sur la pluie et sur le tonnerre. La plaie des sauterelles infligea une défaite aux dieux censés assurer une récolte abondante, entre autres à Min, dieu de la fécondité qu'on tenait pour un protecteur des cultures. Mais quand les sauterelles sont passées, la Bible dit qu'il ne resta aucune verdure en Égypte. Parmi les divinités déshonorées par la plaie des ténèbres, c'est la neuvième, il y avait les dieux solaires Ra ou Horus, ainsi que Thoth, le dieu de la lune, qu'on croyait être l'ordonnateur du soleil, de la lune et des étoiles. Et puis enfin, la dixième plaie, la mort des premiers-nés, ce qui a dû placer la famille de Pharaon ainsi que les prêtres égyptiens au comble de l'humiliation. En effet, les souverains d'Égypte se vantaient d'être des dieux. Ils étaient soi-disant les fils de Ra, dieu du soleil. C'est pour ça qu'ils avaient leurs tombeaux, c'était des pyramides. Pour ça qu'ils étaient vénérés, qu'ils étaient adorés. Dieu est supérieur à tous ces dieux. Il les a écrasés d'un seul mot. L'Éternel est meilleur que toutes les divinités égyptiennes. Il est aussi meilleur aujourd'hui sur nos idoles modernes. L'argent, la beauté, la fécondité, le sexe, le pouvoir, la réussite. Dieu est plus puissant que cela. Confiez-vous en Dieu et non pas dans toutes ces idoles modernes. Elles périront. Elles ne peuvent pas assurer notre éternité. Elles ne peuvent pas garantir notre bonheur. Elles promettent mais ne tiennent pas. Mais Dieu, lui, notre Dieu est puissant. Et puis notre Dieu nous soutient. Mais ce qui est incroyable dans notre Dieu, c'est qu'il le fait avec des moyens méprisables. Quand Dieu veut faire éclater sa puissance, il le fait avec des moyens méprisables. Vous vous souvenez quand Jacob est arrivé avec sa famille en Égypte. Ils étaient 70 personnes, nous dit la Bible. Joseph était à l'époque gouverneur de l'Égypte. Et il est dit au chapitre 46 de la Genèse, verset 31, Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers. » Car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse, jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozan. Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Déjà, pour les Hébreux, pour les Égyptiens, être hébreu, c'était déjà une calamité. Mais être berger, alors là, c'était le en dessous de tout. C'était intéressant que Joseph ait dit ça. Dites, surtout, dites bien que vous êtes berger. Comme ça, vous ne serez pas mélangés. On va vous donner la meilleure partie du pays, Gozan, une terre grasse, fertile, pour que vos troupeaux puissiez paître. Mais ce qui me surprend, c'est quand Dieu a voulu former et préparer Moïse pour être le libérateur, à quelle école l'a-t-il envoyé ? Quelle formation Dieu a-t-il donné à Moïse, celui qui avait été éduqué dans toute la sagesse et dans toute la science des Égyptiens ? Il lui a donné une formation de berger. Une formation de berger. Moïse passe 40 ans à s'occuper des brebis. Il a pris l'habit de berger. Il a la peau tannée à force d'être au grand air. Il a pris l'odeur du mouton et de la chèvre. Il a maintenant 80 ans. Et si à cet âge on est respectable, c'est plus vraiment à cet âge, c'est plus cet âge qui caractérise la force et la puissance. En fait, il est devenu, quand il revient en Égypte, il est devenu un abominable berger aux yeux des Égyptiens. Rien n'est plus méprisable à leurs yeux. Il était prince d'Égypte. Il était potentiellement le futur pharaon. Et ça, c'est ce qui est de plus enviable pour les Égyptiens. Et il revient comme un abominable berger et un vieillard. C'est ce qu'il y a de plus petit. Vous pouvez imaginer ce que ça représente. Moïse, il a tout du berger. Il a même l'équipement. Puisqu'il va nulle part sans son bâton. Vous pouvez imaginer ce que ça représente, le bâton du berger pour les Égyptiens. C'est le symbole de l'abomination. C'est le symbole du déshonneur. L'idée même de toucher un tel outil, ça les répugne. C'est comme le balai des égoutiers, avec tout le respect que j'ai pour les égoutiers. C'est le symbole de la faiblesse, le symbole du rejet, de la honte. Eh bien, regardez ce que Dieu fait avec cela. Quand Moïse se présente devant Dieu, il lui dit « Mais ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas croire que tu m'es apparu. » Et il dit « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse dit « Une verge. » Et l'Éternel dit « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit sa main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Verset 17, finalement, Moïse accepte de partir et, Dieu lui dit « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Et au verset 20, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Ce bâton de berger devient le symbole de la puissance de Dieu, par laquelle la puissance de Dieu va se manifester. Face aux magiciens, chapitre 7, le verset 10, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages, les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Face au Nil, toujours dans le chapitre 7, le verset 17, « Ainsi parle l'Éternel à celui... À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. » Et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et tends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Chapitre 8, toujours, les versets 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Et puis il dit encore, chapitre 9, verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte, et il tomba de la grêle, et ce feu mêlé avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. Et puis chapitre 10, verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres et tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Waouh ! Mais encore, chapitre 14, verset 16, lorsque le peuple est sorti d'Égypte et qu'il se trouve devant la mer Rouge, au verset 16, il est dit, « Toi, lève ta verge, étends la main sur la mer et fends-la. » Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et puis au chapitre 17, lorsque le peuple est assoiffé, au verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et puis enfin, une dernière citation, chapitre 17, toujours le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Oui, la verge de Dieu, ce symbole de la honte, du rejet, de la faiblesse, devient la manifestation de la puissance de Dieu. C'est magnifique. Oui, Dieu prend plaisir à manifester sa puissance dans la faiblesse. C'est ce que Paul enseigne aux Corinthiens. Au chapitre 4, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4 et verset 7, je lis. Nous portons ce trésor, regardez bien, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et puis un peu plus loin dans le chapitre 12, le verset 9, tellement connu, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voyez-vous, Dieu aime manifester sa puissance. Il aime le faire dans la plus grande faiblesse qui soit. Alors si ce matin vous dites, mais moi je suis faible, pensez, Dieu est capable de faire éclater sa puissance au travers de ma faiblesse. De quelle puissance parle-t-il en 2 Corinthiens ? De quelle grande puissance parle-t-il ? Ce trésor que nous portons dans les vases de terre, quel est-il ? C'est l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Cette puissance extraordinaire, seule capable de transformer le plus vil des pécheurs, de justifier les coupables, seule capable de ressusciter des morts spirituels, de pardonner des pécheurs. Cette grande puissance, elle s'est manifestée dans l'extrême faiblesse de Jésus-Christ, crucifié. Jésus, le Fils de Dieu, se fait serviteur. Le prince de la vie devint un berger, le bon berger, et donne sa vie pour ses brebis. Il a manifesté cette puissance en mourant sur la croix. Il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». La crucifixion, c'était l'abomination. C'était la chose la plus vile, la honte la plus grande. C'était la mort la plus infâme. Elle est devenue l'instrument de Dieu pour révéler sa magnifique puissance salvatrice. Ah oui! Quand Dieu veut montrer sa puissance, il le fait dans l'extrême faiblesse. Alors ça nous enseigne plusieurs choses et j'aimerais terminer avec ces choses. D'abord, la manifestation de la puissance de Dieu dans des moyens méprisables tels que nous, tels que la croix de Christ, nous enseigne à montrer de la révérence. Montrer de la révérence. La révérence, c'est un mélange d'admiration et de crainte. Vous vous souvenez quand Job, à la fin de son livre, il parle avec Dieu. Ou plutôt, Dieu lui parle. Pendant tout le livre, il avait dit, « Si seulement je peux trouver Dieu, et si seulement il était devant moi, je lui dirais. J'ai plein de questions à lui poser. » Et Dieu vient, et c'est Dieu qui pose des questions. Et lui montre sa toute puissance. Il lui montre qu'il est seul capable de faire tourner l'univers, seul capable de faire pousser toute la végétation, seul capable de nourrir tous les animaux avec un soin parfait, avec une fidélité sans faille. Il est le seul, et puis il montre sa toute puissance dans toute la description. Et Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. » Tu m'avais interrogé, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Et il reconnaissait, « C'était moi. » Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Vous voyez, quand on voit la puissance de Dieu, quand on a révélation de sa grandeur, ce que ça doit produire dans nos cœurs, c'est de la révérence, cette admiration mêlée de crainte qui se prosterne et qui adore. Dans Romains 9, je lis le verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Que dire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore des païens, d'entre les païens. Oui, quand on voit la grandeur et la puissance de Dieu se manifester, notamment au travers des jugements de l'Égypte, qu'est-ce que nous avons à dire? Nous avons à nous prosterner et à adorer, avec admiration et avec crainte. Et puis, la deuxième chose que cela nous enseigne, ça nous enseigne à craindre de rencontrer la colère de Dieu. Pharaon a joué à s'opposer à Dieu. Puis il a provoqué sa ruine et la ruine de toute l'Égypte. Imaginez ce qu'était l'Égypte avant les 10 plaies. C'était une nation prospère. Imaginez ce qu'elle était après. C'est une désolation, une ruine. Sur le plan économique, il n'y avait plus rien. Plus de bétail, plus de poissons, plus de végétation. La population était littéralement décimée. Toutes les familles étaient endeuillées. La plupart des survivants étaient couverts de plaies encore vives. Leur construction était détruite par la grêle. Politiquement, il n'y avait plus de chef, il n'y avait plus d'armée. Le pays était complètement déstructuré. Enfin, sur le plan religieux, le pays était anéanti. Tous les dieux, tous les temples, tous les prêtres n'avaient pu contenir la colère de Dieu. Nos idoles ne sont pas plus capables de nous sauver que les divinités de l'Égypte. Ne courons pas le risque de trouver Dieu dans sa colère, mais réconcilions-nous avec lui tandis qu'il est temps, tandis qu'il est prêt, tandis qu'il est favorable. La troisième chose que ça nous enseigne, c'est ça nous enseigne à chercher en lui notre refuge. J'aimerais vous montrer un autre passage. J'ai hésité toute la semaine à prêcher entre celui-là. C'est au verset, chapitre 9, le verset 14. C'est quand Dieu annonce la plaie de la grêle et du feu. Dieu envoie Moïse devant Pharaon et lui dit: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois, verset 14, chapitre 9, verset 14, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc, maître, en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi, dans tous les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Et vous savez ce qui est arrivé à leurs troupeaux et à leurs serviteurs. Voyez-vous, l'Éternel est incomparable. Il est incomparable dans sa puissance. Il l'a manifesté, il s'est montré supérieur à toutes ses divinités. Mais il est aussi incomparable dans sa grâce. Il aurait pu détruire tout le pays et tout le peuple en une seule fois. S'il ne l'a pas fait, ça n'est pas par manque de puissance, mais c'est à cause de sa grâce, de sa miséricorde. Il avertit de la grêle, il prévient Pharaon de tout mettre à l'abri. Nous aussi, Dieu nous prévient. Un jugement à venir va frapper. La mort va nous atteindre. Qu'en sera-t-il? Nous devons venir chercher en lui notre refuge. Le psaume 91 dit ceci, psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Magnifique. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voyez-vous, on peut soit connaître la puissance de Dieu se manifester en jugement contre nous, ou cette même puissance peut devenir notre abri. C'est possible à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui devient notre abri, notre refuge. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose à l'abri, en paix. Il a trouvé un refuge. Ce refuge, ce n'est pas en premier lieu un refuge contre la souffrance et la mort. Parce que nous allons connaître la souffrance et la mort. Le refuge, il est... Dieu est un refuge contre la défaite ultime, contre une éternité loin de Dieu, une vie gâchée, ruinée. Et c'est cela, notre refuge, à l'ombre du Tout-Puissant. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jim Elliot et de ses compagnons qui ont été massacrés au bout de 2 jours après avoir rencontré les Mayas, des Indiens, ils ont été tués. 5 jeunes missionnaires talentueux, 5 jeunes missionnaires, voilà, qui venaient, sortaient de faire leurs études, ils étaient là pour parler du Seigneur, annoncer l'Évangile, le pardon des péchés à un peuple idolâtre. Ils ont été massacrés. Et c'était des Américains, et l'Amérique a été secouée, véritablement secouée, par cette mort tragique de ces 5 hommes, 5 jeunes hommes. Deux ans plus tard, l'épouse de Jim Elliot a écrit un livre qui raconte le témoignage de Jim Elliot et de ses compagnons, et qui raconte la suite de l'œuvre. Elle y est retournée, et elle a parlé, et ces hommes pécheurs se sont convertis à Jésus-Christ. L'un d'eux, le meurtrier de Jim Elliot, a été baptisé en même temps que son fils, le fils de Jim Elliot. Elle a intitulé son livre « À l'ombre du Tout-Puissant ». À l'ombre du Tout-Puissant, c'est là que se manifeste la puissance de Dieu. La souffrance, nous allons la connaître, et la mort, nous la connaîtrons. Mais on peut trouver refuge auprès du Seigneur. On peut trouver notre refuge en lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui nous a préservés et de la mort à venir. Christ a pris notre faute, notre péché, notre mort. Gloire, honneur, majesté lui soient rendus. Amen.